Santé Beaujolais d'Ombe.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais d'Ombe. L'émission Santé Beaujolais d'Ombe est disponible en ligne sur le site web de la radio Calade, ainsi que sur la page Facebook de la radio ou de la CPTS Beaujolais d'Ombe. Mais en plus, vous pouvez désormais écouter notre chaîne YouTube. Il vous suffit de chercher CPTS Beaujolais d'Ombe. Cette émission est produite par l'émission de radio de la CPTS Beaujolais d'Ombe et animée par Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Alexandra.
Et par moi-même. Sur la partie technique, Amaury, bonjour.
Bonjour.
Ludovic n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Ça lui évitera de confondre orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute. Et puis si vous n'avez pas la ref, je vous laisserai aller écouter notre émission sur le métier d'orthophoniste. Ou d'orthoptiste, les deux.
On se trompe dans les deux cas.
Voilà, c'est ça. En effet, aujourd'hui, nous allons parler du métier d'ergothérapeute. L'ergothérapie arrive en France après-guerre, notamment pour restaurer la capacité de personnes blessées ou traumatisées. La formation arrive en 1954, pratiquement en même temps que les kinésithérapeutes. Et elle est alors centrée sur l'activité artisanale ou manuelle, et le travail est un moyen de réadaptation. Dans cette émission, nous allons aborder très certainement les notions de la rééducation et de la réadaptation qui sont parfois confondues par le grand public, mais qui, dans le milieu des soignants, sont bien codifiées. Réapprendre ou s'adapter, quelle est la mission des ergothérapeutes ? Dans les années 80, on considère l'être humain comme un ensemble de structures et de fonctions, sur lesquelles il est possible d'agir isolément les unes des autres. C'est comme ça que la profession s'intéresse à une approche centrée sur la personne et non plus seulement sur une déficience acquise. Dans cette émission, nous allons vous proposer successivement de découvrir qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie, où et comment travaille un ergothérapeute, des exemples concrets et des limites, défis et idées reçues sur la profession. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 3 ergothérapeutes, enfin 4, on compte Marie.
Un peu encerclé là.
Et je vais les laisser se présenter. Bonjour mesdames.
Bonjour, je suis Stéphanie Grange, donc ergothérapeute avec une activité mixte, une activité en libéral à la maison de santé de Thésée-Épinay et une activité salariale dans un service de soins à domicile, un CESAD, pour des enfants porteurs de handicap moteur.
Merci.
Bonjour, Lucie Michou, je suis ergothérapeute également dans le CESAD comme Stéphanie et aussi dans un autre service de CESAD pour des enfants en situation de polyhandicap.
Bonjour, Florine Massard, je suis ergothérapeute libérale. Je travaille au domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et également en EHPAD.
Merci d'être toutes les trois présentes. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de l'ergothérapie ? Qui se lance ?
Alors moi, une définition simple de l'ergothérapie, ça serait le professionnel de soins qui accompagne les personnes à développer leur autonomie au quotidien.
Oui.
Voilà, de manière un peu large.
Très bien. Et dans l'introduction, j'ai parlé de rééducation et de réadaptation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre les deux ?
Alors, au niveau rééducation, on va plutôt être sur des gestes en fait à réacquérir ou à acquérir suite à un accident, une maladie ou chez un enfant en fait des gestes qu'il aurait du mal à apprendre ou sur des rééducations, de l'écriture, etc. Et d'un côté adaptation et réadaptation, parce que chez l'enfant, du coup, il y a le côté quand même adapté avant de réadapter, puisqu'il n'a pas vécu d'autres expériences. Ça va être venir l'aider dans son environnement par soit de l'aménagement, des aides matérielles, des nouvelles stratégies.
Est-ce que ça vous convient comme différenciation entre les deux ?
Oui, et puis si on fait après le lien avec la personne adulte et la personne âgée, dans la rééducation, on va souvent avoir affaire à un ergothérapeute en centre de rééducation ou en milieu hospitalier suite à un accident, suite à une pathologie ou par exemple suite à un AVC. Et là, la rééducation, elle va venir en complément finalement des autres professionnels de santé, notamment des kinésithérapeutes, où l'ergothérapeute va se centrer vraiment sur les activités de la vie quotidienne de la personne et l'aider à retrouver son autonomie dans ses différentes activités qu'elle souhaite et qu'elle doit réaliser. Et sur la partie réadaptation, on viendra s'intéresser à l'environnement, à l'aménagement du logement, à l'aménagement du poste de travail, pour que là encore, la personne elle puisse pouvoir garder son autonomie et son indépendance.
Donc, vous le disiez, vous intervenez auprès d'enfants. À partir de quel âge vous pouvez intervenir ?
Alors, moi, les plus petits, 2 ans au cabinet.
Après, c'est variable. Enfin, je pense qu'on peut. Enfin, je me permets de prendre le relais aussi, mais on peut intervenir. Enfin, un ergothérapeute peut intervenir à tout âge de la vie, parce que après, ça dépend de ses formations et de ce qu'il fait en soi. Si on parle du large, on peut même intervenir. Enfin, il y a même certaines ergothérapeutes qui interviennent chez la femme enceinte jusqu'à la mort, finalement.
Ça va plus dépendre du lieu d'intervention, enfin, du lieu de travail de l'ergothérapeute, quoi.
Pour vous, c'est pareil, jusqu'à la mort, comme dit Marie.
Alors, oui,
ou un peu jusqu'au décès.
Bah, du coup, de par mon activité en EHPAD, je peux dire jusqu'au décès de la personne, effectivement. À domicile, ça m'arrive aussi. Mais effectivement, on accompagne les personnes à tous les âges de la vie. Comme le disait Marie, les femmes enceintes, par exemple, peuvent avoir certaines difficultés pour, par exemple, se déplacer, réaliser leur toilette seules. Voilà, et on peut avoir des conseils à leur donner, par exemple, sur cet aspect-là, tout comme on peut être amené à accompagner une personne en fin de vie pour qu'elle soit confortable, bien positionnée dans son lit, qu'on puisse lui prodiguer les soins de confort jusqu'à son dernier souffle. Donc effectivement, on peut accompagner tous les âges de la vie en tant qu'ergothérapeute.
Et pour les enfants, par exemple, vous allez intervenir pour quels besoins ?
Alors, ça va dépendre de leurs besoins au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'ils rencontrent, enfin, que les parents ont une activité qui pose problème pour l'enfant, eh ben, on va pouvoir intervenir, que ce soit au niveau du tout petit, quand il va commencer à prendre des objets ou commencer à jouer ou à manger tout seul. Ça va être sur les besoins de base du repas. Et après, on va aller sur d'autres activités comme l'habillage. Et ensuite, avec l'entrée à l'école, il y a l'écriture. Il y a différentes activités en fonction de l'âge de l'enfant. En fait, ce qui importe, ce n'est pas forcément l'activité qui est importante pour nous, mais l'activité qui est importante pour l'enfant et qu'il a besoin de réaliser dans son quotidien.
J'imagine que pour les adultes, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. En fait, je pense que ce qui est commun à notre pratique, c'est qu'on va commencer par un bilan où on va poser des questions un peu type interrogatoire, parce qu'on va vraiment rentrer dans l'intimité de la personne, parce que c'est la fonction de l'ergothérapeute d'accompagner dans la vie quotidienne. Et donc, effectivement, à partir du moment où la personne rencontre des difficultés dans des activités qui sont importantes pour elle, parce qu'elle veut ou qu'elle doit les faire, eh ben, on va essayer de trouver des solutions, tant en rééducation qu'en réadaptation.
Et au niveau de votre métier, quelle formation vous avez fait ou quelle formation on peut faire maintenant ? J'imagine que ça a peut-être changé.
Alors, pas la formation initiale, mais la formation continue, vous voulez dire ?
Non, plutôt ce que vous avez fait pour devenir ergothérapeute.
Ah, une école d'ergothérapie déjà.
Ouais, donc un bac ?
Oui, bac, maintenant Parcoursup. Alors nous, on n'a pas connu, mais maintenant c'est Parcoursup. Sur dossier, du coup, puis il y a des personnes en reconversion professionnelle aussi qui peuvent avoir accès aux écoles. Trois années, avec des périodes de stage, beaucoup, pour être sur la clinique, des cours théoriques. Et puis après, ben, on n'arrête pas de se former en tant qu'ergothérapeute, quoi. On a plein de formations continues qui sont hyper intéressantes. Et du coup, chacun peut après trouver un petit peu ses domaines de spécialisation avec toute l'offre qu'il y a.
Oui, ça vous permet de vous spécialiser dans une
oui,
dans
tout
une
à fait.
Pratique
ouais, ouais, ouais.
ou une autre.
Puis avec les réseaux, c'est vrai qu'on a accès à plein de groupes, de webinaires. Enfin, il y a toujours tout un tas d'informations très très intéressantes pour pouvoir se spécialiser et aller chercher de la ressource.
Mais finalement, si je peux faire un petit pont entre notre profession et celle des orthophonistes qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment que comme on intervient à tout âge de la vie, on peut pas être spécialiste dans tout. Et comme les orthophonistes, à certains moments, on renvoie vers les collègues ou vers certaines structures pour que la personne soit accompagnée au mieux, parce qu'on ne peut pas se former en tout et être bonne partout.
C'est ça. Et je noterai que tu n'étais pas trompée entre orthophoniste et orthoptiste.
Pas du tout, parce que les orthoptistes ont des bilans très standardisés.
N'est-ce pas, Ludovic ? On continue ? comment un patient arrive jusqu'à vous ? Comment il vous est adressé ? Par quelle façon ? Par quels moyens ?
Alors, on peut avoir une orientation post-rééducation dans un centre de rééducation, les médecins, alors pour la pédiatrie, les pédiatres du coup. Souvent, ce sont des enfants aussi qui ont eu des parcours dans des gros centres comme...
Des centres de rééducation type Roman Ferrari, etc.
Ouais, ou à l'HFME, enfin voilà, les gros hôpitaux de la région, on va dire. Il y a l'AMDPH parfois qui nous sollicite aussi en direct, les plateformes de coordination qui se sont créées dernièrement, qui nous orientent des enfants en tout cas, puis les collègues orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, neuropsychologues, pour ne citer qu'eux, qui peuvent parfois voilà, avoir dans leur cabinet des enfants avec... Des besoins pour lesquels eux ils ne peuvent pas répondre et qui orientent vers l'ergothérapie. Et du coup, alors nous on intervient toujours quand même sur prescription médicale. Donc après on va essayer de. Voilà, on va les orienter vers le médecin pour avoir aussi une coordination dans le parcours de l'enfant. Et aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'enseignants qui peuvent interpeller les parents. En leur disant, on trouve que votre enfant, au niveau graphisme, c'est un peu compliqué. Peut-être que ça serait intéressant d'aller faire un bilan chez l'ergothérapeute. Voilà.
Vous parliez de plateforme. De quelle plateforme il s'agit exactement ?
Les plateformes PCO pour les enfants. Mmh. Les plateformes de coordination et d'orientation qui sont pour les 0-12 ans maintenant.
Oui, ça a augmenté, je crois.
Ouais. Et ça depuis peu. Celle de notre secteur a augmenté depuis peu. Et où du coup, on peut avoir... on fait... Du bilan, de la prévention pour le coup, et après on a des forfaits de rééducation pour ces petits ou ces plus grands d'ailleurs.
Et pour vous ?
Du coup, pour l'adulte et pour les personnes âgées, bien souvent les personnes me contactent en direct, mais c'est en général les aidants qui vont me contacter. En général, c'est les enfants qui m'appellent parce qu'ils ont repéré certaines difficultés chez leurs parents. Et quand c'est les personnes en direct, c'est plus en général parce qu'elles ont été orientées effectivement par un médecin ou par une assistante sociale. Il y a aussi beaucoup à la suite d'une hospitalisation. En général, on ne connaît pas trop le métier d'ergothérapeute pour les adultes, pour les personnes âgées. Et en général, quand même, on contacte à la suite d'une chute, à la suite d'une hospitalisation pour avoir un bilan en général du logement. C'est souvent dans ce cadre-là. Et puis après, il y a aussi tous les modes de prise en charge financière qui peuvent... Du coup, nous orienter aussi quand les personnes voilà, se renseignent sur ce à quoi ils peuvent avoir droit. On peut aussi être orienté dans ce cadre-là.
Merci. Et quand un patient vient chez vous, j'imagine que vous faites donc un bilan, vous disiez. Comment vous faites pour évaluer un petit peu, faire l'état des lieux de départ et puis comment vous choisissez le nombre de séances que vous allez faire, à quel moment est-ce que vous réévaluez aussi la situation, comme nous avaient parlé les orthophonistes dans une précédente émission. Comment ça se passe chez vous ?
Alors moi, de mon côté, je fais uniquement des bilans uniques, c'est-à-dire que je rencontre la personne une seule fois. Je ne fais pas de suivi, je ne fais pas de rééducation à domicile. Donc quand je rencontre les personnes, c'est vraiment pour faire un bilan de la situation actuelle au domicile avec des préconisations en fonction de ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai vu lors de l'entretien et en essayant de donner des préconisations à la fois à court terme mais aussi à moyen et long terme en fonction des pathologies et des difficultés qu'ils m'ont exposées. Et puis bien sûr, je laisse mes coordonnées si après il y a besoin pour réévaluer, pour éventuellement revenir.
Alors au CESAD, au niveau de l'évaluation, on va s'attacher à ce qui est difficile pour la personne, quelle activité est difficile, et ensuite évaluer cette activité par des mises en situation ou par des bilans standardisés selon le besoin ou si on a besoin d'approfondir un petit peu, avoir plus de précision sur quelle est la difficulté, est-ce que c'est plus au niveau moteur, est-ce que c'est plus au niveau sensoriel, cognitif. Enfin, voilà, on va avoir différents bilans. Et ça va être aussi l'échange avec l'enfant, la famille, et un temps d'échange en temps de projet avec les autres personnes du professionnel du CESAD, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer du coup la fréquence des séances selon l'objectif principal à ce moment-là, pour ne pas non plus surcharger l'emploi du temps des enfants. Il peut y avoir des priorisations en fonction des besoins que chacun a révélés au niveau de ses bilans et de son évaluation initiale.
Et vous refaites une évaluation en cours de, on va dire, traitement, mais ce n'est pas vraiment traitement.
Alors, les projets au niveau du CESAD sont réévalués tous les ans. Mais on peut régulièrement, en fonction du besoin, ou s'il y a des thérapeutiques un petit peu plus précises, comme par exemple des injections de toxines ou des choses comme ça, on peut faire d'autres bilans régulièrement au cours de l'année. Mais chaque année, en tout cas, il y a un temps de projet où tous les professionnels font le point de là où ils en sont. Et nous, en tant qu'ergothérapeute, on fait le point sur là où il en est dans ses activités qui étaient problématiques, ceux pour lesquels il a progressé, ceux qui restent compliqués, qu'il aimerait pouvoir progresser. Et au niveau du CESAD, comme c'est un CESAD neuromoteur, il y a aussi toute... alors, on ne s'attarde pas sur la fonction analytique, c'est pas notre... la motricité, par exemple, l'extension de poignet, pour être vraiment très analytique, ça va pas être ça, nous, qui est important. Ça va être plus... ce qui le gêne dans son quotidien. Mmh. Mais par contre, on nous demande quand même ces bilans plus analytiques dans le cadre, par exemple, de toxines, comme je disais tout à l'heure, ou s'il y a des projets de
projet de vie. Mais du coup, ce sont des prises en charge qui sont longues. Si vous faites un bilan tous les ans.
Oui, en CESAD, en général, les prises en charge sont longues. Okay. Après, on peut prioriser et, par exemple, faire des coupures dans les rééducations pour mettre en place d'autres, pour privilégier d'autres rééducations et après réévaluer. Mais en général, ces enfants-là, ils restent au CESAD plusieurs années.
Et dans votre pratique, pareil aussi, c'est... je veux dire, en libéral, les enfants, vous ne les voyez pas forcément pendant un an, deux ans, trois ans, si ?
Non, pas forcément. Non, il y a des prises en charge qui peuvent être plutôt courtes. Ça va être des enfants qui ont des difficultés à un certain moment de leur vie, mais en fait, on ne sera pas dans un trouble vraiment avéré. Donc ça sera plutôt court. Et à d'autres moments, on peut avoir des enfants qui ont un cumul de difficultés, on va dire, qui fait qu'on va les rencontrer pendant plusieurs années, parce qu'aussi, les problématiques, elles vont évoluer. Ce qu'un enfant de 3 ans, en fait, fait, c'est pas ce qu'un enfant de 6 ans fait non plus. On va lui demander autre chose. Et puis, il y aura d'autres exigences et d'autres apprentissages qui vont se faire. Donc, parfois, ça peut être un petit peu long.
Donc le bilan, quand c'est sur des prises en charge courtes, c'est un bilan au début, hein, à la fin, et puis c'est terminé.
Oui, alors le bilan de fin, pas nécessairement. Si l'objectif, c'était, apprendre à faire mes lacets, et que l'enfant, dès qu'il arrive à les faire, on a besoin de réévaluer. Bon. L'évaluation, ça va être la mise en situation, en fait. Ouais. Et puis l'apprentissage, du coup, la répétition et l'acquisition finale.
Ok, très bien. On se sépare pour quelques instants pour écouter Superbus avec Petit Détail.
Sentez vos gelées d'ombre. Bye. toute la journée je baille. Je voudrais bien changer ce tout petit détail et ne pas m'ennuyer. Toute la journée je baille. Je voudrais bien changer ce tout petit détail. Wow, la paresse.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et aujourd'hui notre émission se consacre au métier d'ergothérapeute. Nous venons de voir ce que ce professionnel de santé fait comme, peut apporter comme aide pour les personnes en situation de handicap ou en ayant perdu une autonomie et comment ils peuvent les aider à réaliser leurs activités quotidiennes de manière autonome, sécurisée et efficace. Juste avant la pause musicale, nous parlions des bilans. Marie, je crois que tu voulais nous rajouter
quelque chose. Oui, des évaluations. Et effectivement, je pense que c'est important aussi de nous différencier aussi des autres professions en parlant des modèles de l'ergothérapie, même s'il y en a beaucoup, mais surtout un qui nous définit quand même beaucoup, qui est finalement l'ergothérapeute, il va venir se placer au centre de la personne, ses capacités et donc toutes les parties analytiques dont Lucie pouvait parler avec ses bilans. Finalement très standardisé d'extension, etc., etc. Mais aussi donc l'environnement de la personne et du coup les occupations. Et nous, on va venir se positionner vraiment au centre de tout ça, voir ce que la personne est en capacité de faire, comment, dans quel environnement et avec quelle performance, quoi.
Merci.
Je ne sais pas si c'était très clair.
Si j'ai compris, c'est que ça va.
Mais je pense que c'est vraiment un socle commun à tout ergothérapeute, peu importe l'endroit où il exerce et la population avec laquelle il exerce.
Merci pour cette précision. Tout à l'heure, vous le disiez toutes les trois, vous exercez dans des lieux différents. Est-ce que vous pourriez nous redire un peu vos modes d'exercice pour votre profession? Il y a le libéral, vous disiez.
Oui.
Il y a les CESAD.
Oui, voilà. Il y a les centres, les endroits.
Oui,
les lieux d'intervention.
Alors, je vais parler pour moi. Je suis infirmière, je suis libérale. J'ai travaillé en hôpital. On peut travailler dans le secteur privé, le secteur public, en crèche, voilà. J'imagine que pour les ergothérapeutes, il y a aussi d'autres moyens d'exercer sa profession.
Eh ben, il y a tout pareil. Il y a maintenant aussi des ergothérapeutes en crèche. Il y a effectivement dans les centres de rééducation, dans les hôpitaux, les cliniques, dans le médico-social, dans à peu près toutes les institutions du médico-social, de la petite enfance jusqu'au foyer de vie pour les personnes en situation de handicap, les EHPAD, l'activité libérale. Après, il y a aussi le milieu carcéral.
Et psychiatrique.
La psychiatrie, bien sûr. Mmh. La santé mentale, oui. Très important.
Étant donné que vous avez au moins, si je ne me trompe pas, chacune, deux lieux d'exercice, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences entre vos différents lieux d'exercice? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent en CESAD et en libéral ou en EHPAD
Alors c'est vrai que pour moi, je vois vraiment les deux côtés assez opposés puisque j'accompagne à la fois les personnes âgées au domicile qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles et je travaille aussi deux jours par semaine en EHPAD. Donc je vois là des personnes qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu pour différentes raisons rester à leur domicile. Et donc c'est vrai que l'accompagnement, il est totalement différent. Pour les personnes qui vivent à domicile, je vais m'intéresser justement à leurs occupations, à leur vie quotidienne, quelles sont les tâches qu'ils réalisent, qu'est-ce qui est important pour eux et dans quelles pièces de la maison et dans quelles activités de la vie quotidienne je peux leur apporter des préconisations pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils ont envie et besoin de manière sécuritaire, confortable, pratique. Et puis en EHPAD, je vais plutôt accompagner les personnes sur la mise en place de matériel pour leur permettre de marcher, par exemple, avec une canne, avec un déambulateur, quel type de fauteuil on choisit. Et puis après, sur tout ce qui va être aussi positionnement, pour éviter les postures vicieuses, pour éviter les escarres. Donc on va avoir là aussi en fait un bilan finalement de l'autonomie de la personne en lien avec les équipes de soins. Et puis on est aussi amené à réaliser des groupes en pluridisciplinarité. Ça peut être des groupes cuisine, des groupes d'activités manuelles, des groupes de prévention des chutes. Pareil, pour permettre aux personnes qui vivent finalement dans l'EHPAD, parce que l'EHPAD est un lieu de vie malgré tout, de pouvoir continuer aussi à avoir du lien social et à avoir leur autonomie autant qu'elles le peuvent.
Donc vous faites également de la prévention?
Oui.
De quelle façon ça se concrétise?
Alors du coup, à domicile, effectivement, malheureusement, les personnes nous interpellent souvent un peu tard, quand elles sont déjà tombées ou quand elles ont été hospitalisées. Et pourtant, on se rend compte que les aides financières font en sorte que les personnes nous interpellent dans une démarche de prévention. C'est-à-dire qu'elles incitent les personnes à connaître, prendre connaissance des dispositifs et des aides le plus tôt possible, parce que justement, c'est des choses qui peuvent mettre du temps à se mettre en place, de bénéficier des aides, mais à la fois aussi de faire réaliser des travaux. Quand on pense, par exemple, à adapter sa salle de bain, remplacer la baignoire par une douche. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ergothérapeutes et de professionnels dont je fais partie, qui réalisent des conférences, des ateliers d'information dans le cadre de la prévention et qui sont financés par des organismes de prévention. Et puis, en EHPAD, on essaye de repérer avant la chute, on essaye de repérer avant les escarres, par exemple. Voilà, on mène des bilans et on est vigilant auprès des résidents pour que, justement, le matériel qu'on met en place permette d'éviter à la personne de perdre son autonomie, de se blesser, d'avoir des altérations supplémentaires. Et donc, c'est comme ça qu'on agit en prévention.
Est-ce qu'en CESAD, on fait aussi de la prévention?
Alors oui, il peut y avoir de la prévention, mettre en place des aides à la marche, enfin des fauteuils roulants pour diminuer la fatigue, tout ce qui est mis en place de matériel et d'installation aussi au niveau de la posture, notamment avec la mise en place de sièges moulés ou de matelas adaptés au niveau du positionnement. Mais là, autant en EHPAD, ça va être peut-être plus curatif, là c'est préventif parce que c'est pour éviter des déformations ou une aggravation, quoi. Après,
est-ce que vous voyez d'autres choses que vous pouvez...
Dans la prévention des aidants, je trouve qu'on les accompagne aussi, les parents, dans les gestes et postures pour faire les transferts de leur enfant et se préserver. Bien souvent, en fait, ils ont tendance à se négliger. Et bien que leur enfant grandisse, ils ont toujours en fait ce besoin de les porter. Ils ont peur un peu d'utiliser du matériel pour se protéger. Et en fait, ils pensent pas que si un jour ils se blessent vraiment, ben ils pourront plus le faire du tout, quoi.
C'est ça.
Donc ça, c'est au niveau prévention, c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement au CESAD, surtout ce qui est posture, les installations, pour prévenir également aussi les troubles au niveau cutané.
Donc vous faites de la prévention, de la rééducation et de la réadaptation, on a compris. Vous adaptez aussi l'environnement, c'est ça?
Oui, tout à fait. On conseille des aménagements, voilà. On essaye du matériel à la maison. Alors nous, c'est vrai qu'au CESAD, ou pour les enfants qui ont des troubles neuromoteurs que je vois en libéral, il nous arrive de se faire prêter du matériel pour aller faire des mises en situation à la maison, de réfléchir à des aménagements de salle de bain, des agrandissements de maison pour un nouvel espace, des aménagements dans la cuisine, du matériel différent pour faire les activités qui sont importantes pour notre jeune.
Comment c'est accueilli par les parents, justement, quand vous leur proposez de faire des aménagements, d'avoir de nouveaux matériels? Est-ce qu'ils le prennent plutôt bien? Est-ce qu'ils sont réticents?
C'est un vrai accompagnement. Ça se discute...
C'est un cheminement long.
Ça peut être un cheminement long.
Dur au début, ouais. Et qui, après, peut être accepté ou non, petit à petit.
Et puis, parfois, ils ont déjà aussi plein de super idées. Donc, quand on les voit faire, on leur dit « Ah oui, mais ça, c'est super !» Ou ils ont bricolé des choses, en fait, à la maison, ou utilisé des, je sais pas, des coussins pour des transferts, etc. Et on se dit « Ouais, mais ce que vous faites, c'est super bien !» Donc, en fait, ils sont aussi valorisés dans leur accompagnement en tant que parents. Et puis, parfois, ben, ils nous voient faire aussi des choses où on leur fait des propositions. Et là, ils peuvent être surpris, en fait, de la facilité et se dire « Ah, bah oui, bah, j'y ai pas pensé. C'est super, on va faire comme ça aussi. » C'est plutôt bien accueilli, en général. Ils voient bien que voilà, c'est fait de manière aussi sécuritaire, que l'enfant, ben, il est, il peut,
comment dire, quand ça lui apporte un plus dans son quotidien,
oui,
il
voilà.
voit le
bénéfice.
Il voit le bénéfice. Mmh. Mmh. Ce qui va être plus compliqué, c'est les aides qui sont plus marquantes, comme les fauteuils roulants ou premier siège, enfin siège moulé, des choses qui marquent vraiment le handicap. Là, c'est plus difficile à accepter souvent.
Oui, les gros changements, quoi.
Oui. Mmh.
Je pense que quand on travaille aussi, enfin, quand on travaille en réadaptation notamment, enfin, on travaille du coup sur l'environnement, mais il ne faut pas négliger l'environnement humain. Mmh. Donc en fait, on travaille étroitement avec les familles, que ce soit en pédiatrie, en gériatrie. Il y a aussi toute la partie aidance qui nous porte et qui fait partie de notre évaluation, mine de rien, initiale.
Mmh. Est-ce qu'avec les personnes âgées, les aidants sont aussi... réticents à du matériel, ou est-ce qu'au contraire ils vont plutôt parce qu'on se dit que pour un enfant il y a l'évolution de la maladie, du handicap qui est un peu plus présent, pour les personnes âgées c'est plutôt essayer de maintenir un petit peu et d'éviter l'aggravation. Est-ce que les aidants sont plus réceptifs aux propositions que vous pouvez leur faire?
Alors là aussi, ça dépend. Des fois, les aidants sont réceptifs et c'est les personnes elles-mêmes qui sont réticentes par rapport à l'image que ça peut renvoyer d'eux. Donc on a les deux cas, des personnes qui acceptent et des fois, c'est les aidants qui ont plus de mal ou inversement. Dans tous les cas, nous, on est là vraiment pour proposer des choses. On explique qu'on est là pour expliquer, porter à la connaissance des gens les solutions qui existent. Il y en a de plus en plus qui sont esthétiques aussi, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte, les fabricants et les revendeurs de matériel médicaux, que c'était pas toujours très joli, ça donnait pas toujours très envie, c'était assez stigmatisant. Donc on est là pour présenter les solutions, présenter les bénéfices que ça peut avoir. Et on n'est vraiment pas là pour imposer. Et je pense que le fait de proposer des mises en situation et des essais, c'est ce qui permet aussi que l'aide technique soit acceptée ou l'aménagement soit accepté, pour pouvoir leur dire, bah, testez, voyez le bénéfice ou non que ça vous apporte. Et c'est vous qui décidez à la fin.
Oui, parce que du coup, vous pouvez prêter du matériel pour tester si ça convient ou si ça ne convient pas.
Oui, au maximum, on essaye de le faire quand c'est possible.
Pour les enfants aussi, c'est
également, oui. Mmh.
Très bien. On revient dans quelques minutes. On fait une petite pause musicale avec Lady Gaga et Abracadabra.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes sur Radio Calade et si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site internet de Radio Calade ou sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombes. Elle est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Nous avons évoqué beaucoup de thèmes sur vos métiers, votre métier plutôt. On pourrait parler de cas un peu plus concrets pour expliquer à nos auditeurs ce que vous faites exactement avec les patients. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par un enfant, par exemple, qui aurait un trouble?
Oui.
Alors, je ne sais pas lequel.
Par exemple, on est souvent sollicité pour des enfants qui présentent des difficultés graphiques et des activités un peu dans la manipulation des outils scolaires. Des difficultés d'organisation. Donc ça, c'est vrai que...
En général, ils vous sont adressés par les professeurs, par
les PCO. Oui, il y a des inquiétudes au niveau de l'école, par la PCO également, les orthophonistes, les psychomotes aussi, et puis les neuropsies, comme on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent des fois voir que sur un trouble du langage écrit ou sur un trouble des coordinations, le graphisme ou l'écriture en fait n'est pas très fonctionnel et que du coup ça met l'enfant en difficulté ou en souffrance. Donc ils vont plutôt orienter vers l'ergothérapeute. Maintenant, je pense que on a plutôt beaucoup d'orientation par rapport à ça. C'est vrai que là, on fait de la rééducation graphique chez ces enfants avec tout ce qui va être vraiment travailler sur déjà la posture, l'installation, le choix de ces outils. Et puis après, voir, comme le disait Lucie tout à l'heure, sur à partir des bilans, en fait, voir quelles sont les difficultés qu'éprouve l'enfant et qui viennent en fait embêter cette écriture en termes soit de lisibilité, de vitesse, de fatigue, de coût attentionnel, de la double charge de l'écriture pour les plus petits, puis souvent chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, du coup.
Concrètement, pendant la séance d'ergothérapie, qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants-là, par exemple ?
Alors, on ne va pas travailler d'emblée sur l'écriture, on va travailler à... Ce qui pose problème, en fait, si c'est par exemple les enchaînements, on va travailler sur de la fluidité. Si c'est des problèmes à gérer la taille, le placement de l'écriture dans la page, on va travailler sur les aspects plutôt spatiaux, du coup. Ça va dépendre, en fait, un petit peu de ce qui vient mettre en difficulté l'enfant, en fait, à partir, en analysant le bilan initial. Et puis, après, si on voit une résistance dans la mise en place d'une écriture qui soit fonctionnelle, même si, souvent, il y a une amélioration. L'enfant, il progresse, c'est plus joli ou c'est plus rapide, c'est moins coûteux. Mais avec les exigences des classes supérieures, souvent, l'écriture, elle reste quand même problématique. Et là, du coup, on va passer sur le côté adaptation avec l'adaptation des supports. Déjà, dans un premier temps, proposer des polycopiés, des photocopies, des cours numériques. Et puis après, passer sur un apprentissage de l'outil informatique. C'est le type de prise en charge qu'on a fréquemment en libéral.
Donc vous allez apprendre aux enfants à écrire à l'ordinateur.
C'est ça. Ou du moins à utiliser l'ordinateur pour être dans des tâches d'élèves fonctionnels sans difficulté.
Oui, parce qu'il
n'y
aura pas forcément que écrire à l'ordinateur, il y a aussi l'utiliser.
On va du coup, pour certains, permettre de... Tout ce qui va être difficulté organisationnelle, en fait, ou de manipulation, ça va nous permettre, en fait, de... Comment dirais-je ? Je ne trouve pas le mot. De pallier, en fait, de compenser toutes ces difficultés. On va limiter les manipulations. Il va pouvoir faire de la géométrie sur un logiciel qui sera adapté. Parce que souvent, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés avec leur compas, leur équerre, à le mettre dans le bon sens. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir éviter. Puis on rencontre aussi beaucoup d'enfants qui ont des troubles du langage écrit, et pour le coup on va pouvoir les accompagner sur l'utilisation de logiciels plus spécifiques avec des correcteurs orthographiques, grammaticaux, des dictées vocales, des synthèses vocales. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui permettent du coup à l'élève de travailler de manière plus autonome par rapport aux exigences scolaires.
Au CESAD, par exemple, vous allez voir peut-être des enfants qui sont polyhandicapés ou avec des difficultés motrices.
Dans les deux services, en effet, ils ont un handicap neuromoteur et notamment il y a des enfants en situation de polyhandicap où du coup l'intervention elle va être plus ponctuelle et pour permettre de réaliser le maximum de choses dans le quotidien. Donc on va voir au niveau de la personne ce qu'elle est capable de faire et de pas faire en mettant en situation. Et on va beaucoup adapter l'environnement, mettre en place des couverts adaptés pour qu'ils puissent attraper la cuillère. On va aussi pouvoir beaucoup agir sur l'installation avec la mise en place de sièges moulés, de matériel adapté. Et ça, donc, dans les différents lieux, parce que souvent, c'est des enfants, c'est tous des enfants qui sont souvent scolarisés. Donc, il faut voir comment il est installé pour la tâche à la maison, mais aussi à l'école.
Parce que manger à la maison, ce ne sera pas pareil que manger à la cantine.
Oui. Donc, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas la même table, ce ne sera pas la même personne qui l'accompagne. Il n'y aura pas forcément la même nourriture, la même... Il n'y aura peut-être personne qui sera là pour lui couper la nourriture. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte l'environnement, de comment et quand va être réalisée la tâche, et pour voir ce qui pose problème, et ensuite proposer les différentes solutions, en général par des essais, comme on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment essayer des choses, que ce soit du matériel ou des techniques de compensation.
Et pour l'EHPAD, alors, comment ça se passe ? Les séances, j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose.
Alors, en EHPAD, effectivement, ça va être plutôt sur sollicitation en général de l'équipe de soins. On va être amené bien souvent à faire ce qu'on appelle des toilettes évaluatives quand on a des difficultés pour aider la personne à réaliser sa toilette. Est-ce qu'on fait une toilette au lit ? Est-ce qu'on peut faire un transfert avec un lève-personne ou avec un verticalisateur ? Est-ce qu'on utilise une chaise de douche ? Comment on aide la personne à faire les transferts en mobilisant ses capacités ? Parce que l'idée, ce n'est pas de faire à la place de la personne, c'est bien de l'aider à utiliser ses capacités pour pouvoir faire au maximum seul. Et quand c'est avec aide, quelles aides on utilise ? Aide humaine et aide technique. Et après, en EHPAD, effectivement, c'est aussi beaucoup, comme je vous le disais, de l'installation, du positionnement. Et donc, choisir un fauteuil adapté pour que la personne soit confortable, puisse se déplacer seule. Et qu'elle soit confortable dans le lit et dans le fauteuil, donc mettre en place des coussins de positionnement, etc. Donc là, ça va vraiment être sur sollicitation de l'équipe, mais aussi parfois de la famille.
Et le matériel, les mousses, etc., c'est quelque chose que vous fournissez, qui peut être acheté par les patients, enfin les aidants. Comment ça se passe ?
Alors, l'EHPAD a un budget qui est alloué pour pouvoir acheter le matériel nécessaire au confort et à la sécurité des résidents. Donc, une fois qu'on a évalué le besoin du résident, que ce soit coussin, fauteuil, mais également couvert adapté, parce que aussi pour les personnes âgées, parfois, ça peut devenir compliqué de tenir une fourchette, un couteau, etc. C'est l'EHPAD qui le fournit. Parfois, il y a besoin de la prescription du médecin pour justifier l'achat, mais en tout cas, c'est fourni par l'EHPAD.
Et en pédiatrie ? Enfin, pour les enfants, en tout cas ?
Alors, il peut y avoir des remboursements par la sécurité. Enfin, il y a des remboursements sécurité sociale. La mutuelle peut compléter. Et souvent, on peut aussi passer par des dossiers MDPH pour des financements complémentaires.
C'est les parents achètent aussi de leur poche le matériel.
Oui, ça peut arriver surtout sur les petites aides techniques.
Oui,
complètement. Et donc, on a vu les différences, effectivement, EHPAD, structure, enfin, service médico-social, libéral. Moi, je voulais juste aussi peut-être qu'on revienne sur comment, au niveau de l'accès à l'ergothérapie, finalement, en EHPAD ou en structure, c'est orienté par le médecin, c'est entièrement pris en charge. Ça se passe comment, notamment en libéral, par exemple, en gériatrie ?
Alors du coup, pour les personnes adultes et âgées, il y a différents modes de financement qui sont possibles, mais qui sont surtout pas très clairs pour les personnes, donc c'est pas évident. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une prise en charge de la mutuelle, peut y avoir une prise en charge des caisses de retraite, peut y avoir une prise en charge également du département lorsque les personnes ont un dossier APA, l'allocation pour la perte d'autonomie. Et c'est vrai que c'est pas souvent clair, et donc on est obligé de se renseigner en tant que professionnel pour pouvoir justement, quand on réceptionne un appel, bien pouvoir expliquer à la personne que malgré qu'elle ait une prescription de son médecin, malheureusement ça sera pas pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'il y a peut-être d'autres possibilités de financement. Et dans ces cas-là, on pose un certain nombre de questions pour pouvoir faire en sorte, en tout cas, que notre accompagnement soit pris en charge.
Alors, on va y revenir juste après la musique. On va faire une petite pause avec Walk This Way de Run DMC et Aerosmith.
Sentez vos gelées d'ombes. Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Parlions de la prise en charge financière. Ça, c'était pour l'EHPAD ? Pas forcément, si, c'était pour l'EHPAD, ce dont vous parliez ?
Oui, en EHPAD, effectivement, que c'était pris en charge, le matériel était pris en charge par l'EHPAD, effectivement.
Et pour les personnes adultes, comment ça se passe, qui ne sont pas en EHPAD et qui ont juste besoin de vos services ?
Alors, du coup, effectivement, il peut y avoir plusieurs prises en charge possibles selon la situation de la personne. Quelques exemples, par exemple, j'ai été contactée pour un monsieur en activité, chauffeur de bus, mais qui souffrait d'une pathologie articulaire. Son entreprise a pris en charge mon diagnostic pour pouvoir avoir des préconisations sur un aménagement de son poste. Et donc, dans ce cas-là, ce monsieur n'a rien eu à débourser. Par exemple, pour les personnes qui souhaitent aménager leur domicile, on a l'aide de la prime Adapt. Qui, sous certains critères financiers et certains critères d'âge, permettent aussi aux personnes âgées qui souhaitent aménager leur logement de pouvoir bénéficier d'un diagnostic d'une ergothérapeute qui, là aussi, est pris en charge. Et puis après, les mutuelles, les caisses de retraite principales et complémentaires peuvent prendre en charge l'évaluation de l'ergothérapeute. Et là, c'est vrai qu'ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être orientés pour pouvoir savoir à quels financeurs ils peuvent se tourner pour pouvoir avoir une aide. Et parfois, malheureusement, c'est à leur charge. Et dans ces cas-là, ils sont informés du coût de la prestation et vont au bout ou pas selon leurs possibilités.
Pour le matériel, c'est la même chose. Ça peut être autant pris en charge que pas du tout.
Exactement. C'est ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'il y a certaines aides techniques qui sont prises en charge sur ordonnance, certaines partiellement, avec un reste à charge pour la personne. Et c'est vrai que dans nos bilans, dans nos comptes rendus qu'on fournit, on essaye de préciser au maximum voilà, un prix indicatif de l'aide préconisée. Est-ce que c'est pris en charge, pas pris en charge, et vers quel financeur on peut se tourner pour avoir une prise en charge des préconisations.
Pour les enfants, tout à l'heure, on a parlé de la MDPH. Oui. C'est la même chose, le matériel peut être pris en charge de la même façon. Il y a des aides qui peuvent être permises pour ça.
Oui, alors après, il y a du matériel qui est pris en charge par la CPAM, avec aussi parfois des dépassements qui peuvent être absorbés par les mutuelles. Mais dans le cadre de gros matériel ou de gros aménagements, on va plutôt passer par la MDPH avec des demandes de prestations de compensation du handicap pour pouvoir faire de l'aménagement du domicile, du véhicule, pour certaines aides techniques, ou notamment la communication, qui peuvent être aussi très onéreux.
Et pour vos séances d'ergothérapie, elles sont prises en charge aussi ?
Alors, on demande une allocation enfant handicapé pour... alors, souvent, ils en ont une. Après, on peut venir étayer pour avoir un complément pour financer, aider les familles à financer les séances. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont une notification MDPH, parce qu'ils n'en ont pas tous. Dans le cadre du libéral, on a quand même beaucoup d'enfants avec des troubles neurodéveloppementaux qui ne ressortent pas, en fait, de la MDPH. Et pour le coup, on va avoir les PCO, comme on le disait tout à l'heure, qui vont permettre de financer un bilan, 35 séances à l'année, renouvelable une fois. Et puis, comme le disait Florine, on a des mutuelles, parfois des comités d'entreprise aussi, qui peuvent avoir des fonds. On peut faire des demandes de prestations extra-légales aussi auprès de la CPAM. Je pense.
Oui, alors du coup, donc ça c'était les limites plutôt financières. Oui. Au niveau des délais de consultation, est-ce que vous avez des délais à rallonge ? Alors je ne parle pas du CESAD ou de l'EHPAD, parce que là vous êtes directement sur place, mais en libéral, comment ça se passe ?
Alors moi j'interviens en général assez rapidement, ça dépend le secteur, effectivement, moi, j'interviens dans un secteur assez large. Ça peut m'arriver d'essayer de grouper certaines visites, mais en général, c'est pas au-delà de 2 semaines pour pouvoir intervenir chez une personne, puisque j'estime que s'il y a un bilan qui est demandé, c'est que si je veux être aussi dans une démarche de prévention, il faut aussi que moi, je puisse intervenir assez rapidement, sachant qu'après, il y a le délai aussi de transmission du compte rendu. Donc moi, je dirais 2 semaines maximum.
Et pour vous ?
Alors pour le coup, je trouve qu'au CESAD, le délai est bien plus long qu'en libéral, parce qu'il y a des enfants qui ont des notifications pour intégrer le CESAD et qui attendent des années par manque de place. Donc pour le coup...
Et qui vont mettre en place du libéral souvent en attendant la place.
Après, moi, au niveau du libéral, j'ai des créneaux de bilan. Donc j'arrive à réaliser un bilan dans le mois qui suit, on va dire. Et après, au niveau des prises en charge, c'est quand même... de toute façon, on définit un petit peu avec les parents au départ des objectifs bien précis. Et parfois, ça peut être assez court. Donc il y a un turnover de...
disponibilité.
Voilà, tout à fait. Et puis après, j'ai des quand même pas mal aussi de suivi une semaine sur deux. Des suivis aussi en visio qu'on met en place avec de l'accompagnement parental et du coup qui permettent aussi d'être devant des choses plus ponctuelles, de répondre à une demande bien spécifique.
Ça fluidifie un peu.
Ouais, ça fluidifie. Et puis du coup, on travaille vraiment objectif par objectif comme ça. Et puis ça permet de faire des coupures, de ne pas se lasser. Donc je trouve que c'est relativement fluide. Moi, je n'ai pas de liste d'attente de fou.
J'ai une question de vieille infirmière. Quand j'ai fait mes études, on voyait les ergothérapeutes bricoler. Tout à l'heure, vous parliez de bricolage des familles, parfois. Vous bricolez toujours ?
Moi, je bricole pas.
Vous n'avez pas votre petite clé à molette ?
Ah, si. Par contre, je resserre des vis.
D'accord. Bon, un petit peu de bricolage, alors, mais pas
trop. On règle les hauteurs, on règle le matériel qui est déjà existant, plus qu'en créer du matériel. Après, on peut faire appel à des orthoprothésistes qui peuvent nous fabriquer du matériel homologué, du coup, et qui permettent d'avoir l'installation qu'on recherche.
C'est ça. Le problème du bricolage, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, ni si c'est bien sécuritaire, quoi. Mmh.
Pour des questions de sécurité et aussi d'hygiène, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de matériel qui se développe et donc on a quasiment une solution pour toutes les problématiques qu'on peut être amené à rencontrer. On a aussi la chance d'avoir vu l'émergence des impressions 3D qui nous permettent aussi de venir créer là encore des choses pour venir répondre à des besoins peut-être plus spécifiques. Je dirais plutôt qu'on est vu comme une profession pratique, c'est-à-dire que comme on est basé sur le quotidien, effectivement, des fois, on va apporter des solutions qui semblent évidentes, mais c'est aussi notre capacité, c'est d'avoir le recul sur la situation. Comme le disait Marie, on voit la personne, on voit son environnement, on voit ses occupations, et on prend ce recul-là qui nous permet d'avoir, en fait, finalement, peut-être l'idée qui paraissait simple et évidente, mais encore fallait-il l'avoir, mettre en lien la personne avec le bon partenaire, le bon fabricant, pour lui permettre de réaliser ce dont elle a besoin.
Merci.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Nous venons de voir que l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui aide les personnes à rester autonomes dans leur vie de tous les jours. Que l'on soit enfant, adulte ou senior, après un accident, une maladie ou simplement avec l'âge, certaines activités deviennent plus difficiles. S'habiller, écrire, cuisiner, se déplacer ou même simplement vivre chez soi. L'ergothérapeute observe comment la personne fait les choses dans son environnement et ça peut passer par la rééducation, l'apprentissage de nouveaux gestes ou encore l'aménagement du logement et l'utilisation de techniques et d'aides adaptées. On le retrouve à l'hôpital, en centre de rééducation, dans les écoles, dans les EHPAD ou à domicile, souvent en lien avec les autres soignants. En résumé, l'ergothérapeute, c'est un peu le spécialiste du quotidien. Il ne cherche pas à changer la personne, mais à adapter le monde autour d'elle pour qu'elle puisse continuer à vivre pleinement à sa manière. Si vous souhaitez prendre contact avec un ou une ergothérapeute, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombes. Et si vous avez manqué le début, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Calade en podcast, dans l'onglet Santé Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez également retrouver l'émission à partir de notre site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombes et désormais sur YouTube, sur notre chaîne. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Marie, moi-même.
Oui, on se retrouve le mois prochain avec Ludovic.
C'est ça. Un petit message personnel. Nous n'avons fait aucune coupure. Cela ne vient donc pas de nous.
Pas de bafouille, Ludovic.
Pas aucune. Allez, on vous retrouve donc le mois prochain, pardon.
Ah ben voilà.
Voilà, c'est le karma à chaque fois. Mmh. À chaque fois que je me moque de lui, hop.
Et on abordera le lourd sujet des violences faites aux femmes.
Merci beaucoup. Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.